C'est parti pour Big Bang. Nous sommes en public depuis le festival Les Rendez-vous de l'Histoire avec mes invités. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en l'existence d'une intelligence extraterrestre, le cosmologiste britannique Stephen Hawking a répondu qu'il faudrait peut-être, pour commencer, trouver un signe d'intelligence sur Terre. Stephen Hawking nous a quittés il y a 7 ans déjà et le monde a bien changé depuis, notamment au niveau de l'intelligence, mais pas celle des humains, celle de nos propres créations, l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'intelligence? On sait bien que dès que quelqu'un est nul dans une discipline quelconque, on lui dit qu'heureusement, il y a l'intelligence émotionnelle ou sociale, morale ou mathématique. Et ça n'aide pas beaucoup. Une définition peut-être un peu plus pratique serait de dire que l'intelligence est ce qui nous permet de reconnaître des situations, d'apprendre, de comprendre, de raisonner afin de résoudre des problèmes et de communiquer. Tous ces concepts font partie de l'intelligence et ils sont loin peut-être d'en former une description exhaustive, mais voilà, il semblerait que depuis quelques années, le vivant auquel nous appartenons n'est plus le seul à posséder ces caractéristiques. Tout part au départ d'une tentative amusante. Essayez de faire deviner à un ordinateur le mot qui manque. Par exemple, si je vous dis que les oiseaux volent haut dans le... Tout le monde devine que le mot suivant est probablement ciel. Ce qui est important là, c'est le probablement. Car la phrase complète aurait très bien pu être « les oiseaux volent haut dans le firmament ». Mais on pense plutôt à ciel, car la plupart du temps, c'est ce mot-là qui vient après. Et ce que dit ce probablement, c'est qu'il y a des maths derrière tout ça. C'est-à-dire que si on fait lire 1 milliard de livres à un ordinateur, alors il peut regarder tout seul quel mot devrait apparaître à la fin de la phrase. Et c'est ce que les chercheurs ont fait. Mais il s'est passé autre chose. Dans la façon dont les machines se sont mises à analyser les données qu'on leur donnait, elles ont soudainement répondu à des questions qu'on ne leur posait pas. Alors que ce n'était peut-être pas le but au départ, c'est ainsi qu'est né artificiellement un système capable de correctement interpréter des données, d'apprendre ce qu'il y a à y apprendre et de les utiliser pour résoudre des problèmes dont la solution n'était pas dans les données. C'est ainsi qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et pour nous aider à comprendre ce que cela signifie réellement et quels sont peut-être les impacts sur nos sociétés à venir, voici mes 3 invités.
Bonjour, merci de m'avoir invité déjà. Mon nom est Isabelle Rille, je suis professeure des universités en informatique. Et puis, il y a quelques années, j'ai rejoint INRIA où j'ai exercé plusieurs fonctions et où j'ai rencontré Jean Ponce, professeur à l'ENSPSL. Et nous avons décidé en 2018 de créer PRAIRIE, le Paris AI Research Institute, pour rassembler des chercheurs qui voulaient se lancer dans cette belle aventure. Et nous avons obtenu le label Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle pour continuer tout ça à la suite et l'étendre pour la recherche, la formation et l'innovation. C'est un institut qui est devenu un cluster d'IA qui est porté par CNRS, INRIA, l'Institut Pasteur, l'Université Paris Cité et l'Université PSL que j'ai rejoint aujourd'hui, où je dirige ce cluster, également la Paris School of AI que l'université vient de lancer. Donc c'est une grande aventure qui nous permet d'avancer. Et si je devais rêver de quelque chose, la plus belle chose que pourrait faire l'IA, je pense que ça serait nous aider à découvrir le mystère de la vie.
Bonjour, moi mon nom c'est Eric Vandenen, je suis professeur de mathématiques à l'Institut Courant, qui est la faculté de maths de la New York University à New York. Je fais des mathématiques appliquées et computationnelles, ça veut dire que je développe des outils pour résoudre des problèmes scientifiques. Alors, cette année, je passe un petit peu de temps à Paris parce que je suis en train de monter un laboratoire d'apprentissage machine dans une boîte qui s'appelle CFM. Et donc, je m'occupe un petit peu avec ça. Et par rapport à l'IA, la chose la plus phénoménale, je pense, qu'elle pourrait faire, c'est qu'en fait, nous rendre plus intelligents nous-mêmes. Parce que je pense que, quelque part, c'est quelque chose qui est un grand accès à la connaissance. C'est un côté de démocratisation, en fait, de la connaissance. Et ça pourrait jouer un rôle un petit peu comme quand l'imprimerie est arrivée avec les livres. C'est-à-dire que tout le monde a accès à beaucoup plus de choses d'une manière différente et complémentaire, plus individuelle. Et que, voilà, je pense que ça va nous aider à faire plein de découvertes fascinantes.
Bonjour, je suis Michel Azavicius, je fais des films. Donc autant vous dire que je suis beaucoup moins intelligent et beaucoup plus artificiel que mes voisins qui viennent de prendre la parole. Je m'intéresse à l'IA, je crois, comme tout le monde, notamment parce que dans mon métier, je vois bien la révolution qui est en train de se produire. Et cette révolution va bouleverser mon métier. Elle est fascinante et vertigineuse. Vertigineuse dans le sens où on voit arriver de nouveaux outils qui ouvrent de formidables perspectives. Et elle est terrifiante parce qu'elle est en train de bouleverser un écosystème sur lequel on a fondé une industrie, fondé une organisation du travail où on rentre dans une période, j'ai peur, qui soit un petit peu incertaine.
Eh bien, on va voir tout ça. Isabelle Riel, Eric Van Den Heijden, Michel Hazanavicius, bonjour et bonjour à toutes et à tous. C'est la fête de la science et nous sommes en public à Blois au rendez-vous de l'histoire. France Inter. Christophe Galfard. Alors j'ai un petit test à faire avec vous, cher public. Je vais dire une phrase, vous allez me trouver le dernier mot. La nuit, tous les chats sont... Comment vous avez fait ? Comment vous avez su ? Les ordinateurs, apparemment, sont capables de faire ce genre de choses. Eric Van Den Heijden, comment est-ce qu'on peut demander à un ordinateur de trouver le dernier mot d'une phrase comme ça ?
Alors, c'est une idée qui est à la fois simple et mystérieuse, comme toutes les bonnes idées. C'est-à-dire que c'est fait simplement en donnant énormément de données à un ordinateur. C'est-à-dire qu'on l'expose à énormément de textes dans lesquels on a caché le dernier mot ou caché une partie. Et ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'essayer, avec la fréquence par laquelle ces mots réapparaissent, d'apprendre lequel il devrait mettre. Donc, par exemple, on pourrait dire le chat est couché sur le lit, le tapis, la chaise ou le nuage. Alors, le dernier est un peu moins fréquent, mais ça pourrait être utilisé en poésie. Et donc, ce que l'ordinateur apprend, c'est essentiellement à, en fonction du contexte, dire OK, ça va plutôt ce mot-là ou plutôt ce mot-là. Alors, pourquoi c'est mystérieux ? C'est parce que, bien sûr, l'ordinateur ne connaît pas la grammaire, ne connaît pas la syntaxe, ne connaît pas le sens. Et néanmoins, si on fait ça à une échelle suffisante et avec des outils que je peux essayer d'expliquer, on arrive à avoir ChatGPT, par exemple, qui donne des réponses qui ont l'air très, très intelligentes par rapport à des questions qu'on leur pose.
Ce qui m'amuse, c'est la façon dont l'ordinateur lui-même voit ces phrases et ces mots. Parce que nous, dans notre imaginaire, un mot a une signification, c'est quelque chose en soi. Mais lorsqu'on le voit écrit sur nos téléphones ou écrit à l'écran d'un ordinateur, un mot, c'est une série de chiffres, en réalité. Et est-ce que c'est à partir de ces séries de chiffres-là que les ordinateurs font leur tri pour comprendre statistiquement ce qui apparaît quelque part ?
Tout à fait. Donc, effectivement, les mots doivent être intégrés dans une représentation qui permette d'être lu par un ordinateur. C'est ce qui s'appelle tokenisation. Qui en fait, c'est un mot assez compliqué, mais qui simplement veut dire que les mots sont coupés en petits morceaux et chacun, on leur donne un chiffre qui permet de le représenter dans l'ordinateur. Donc ça, c'est une partie des choses. Et puis, c'est passé dans une architecture neuronale, donc c'est ces fameux réseaux de neurones artificiels qui s'appellent Transformer. C'est le T dans GPT et qui est en fait une architecture qui apprend les connexions entre les mots. Ça vient d'un papier de Google qui était « All you need is attention », tout ce que vous avez besoin, c'est de l'attention, et qui, en fait, est une architecture qui permet à l'ordinateur d'établir que certains mots viennent dans un certain contexte. Par exemple, si je dis « je vais parler à mon avocat », vous savez que, sans doute, on parle de la personne et pas du fruit qu'on va mettre sur la tartine. Et donc ça, c'est exactement ce que l'ordinateur essaye de faire, et fait avec cette architecture qui s'appelle Transformer, qui est une architecture neuronale, et je peux expliquer un petit peu plus ça. Si
bah allons-y.
Alors ça, donc, dans une certaine mesure, la dernière évolution qu'on a pour l'instant, ou une des dernières qu'on a par rapport à ces réseaux neuronaux, les réseaux neuronaux, en fait, ce qu'eux font, c'est une représentation dans laquelle on prend un input, par exemple une phrase, n'importe quoi, des données, par exemple. Et ce qu'on leur donne, c'est qu'on leur associe à chacun un poids. Et puis, on additionne tous ces poids, on les passe dans une non-linéarité, c'est-à-dire qu'on décide s'ils sont importants ou pas, et on les passe à la couche suivante du réseau de neurones qui répète ça plusieurs fois. Un petit peu comme les neurones et les synapses. En fait, la terminologie vient de là, du cerveau. Et en fait, tous ces poids, un petit peu comme dans le cerveau, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'information de départ, ils font passer ça dans toutes ces couches, et ils donnent une information de sortie. Et cette information de sortie est censée correspondre à ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Par exemple, on leur donne des images de chats et de chiens, et il faudrait qu'en fin de compte, l'image dise ça c'est un chat, ça c'est un chien. Et ce qu'on fait, c'est simplement, on adapte les poids dans les réseaux de neurones, donc on fait des connexions, si vous voulez, comme un petit peu comme dans un cerveau, qui font qu'on ajuste des choses pour que la réponse soit la plus correcte possible. C'est l'entraînement.
Et l'entraînement, c'est le pre-trained, c'est le P dans ChatGPT.
Le G, c'est la génération, cet aspect un petit peu probabiliste avec où on fait de la fréquence, où on dit, OK, quel est le mot le plus probable qui va suivre. Le T, c'est le transformer, qui est avec ses mécanismes d'attention. Et le P, qui vient, c'est les pre-trained neural networks. Ça veut dire qu'ils entraînent. C'est-à-dire que l'entraînement est fait avant que vous utilisez le chatbox.
Et quelque part, Isabelle Rille, est-ce que vous avez vu dans l'évolution de cette technologie apparaître quelque chose justement de différent, quelque chose qui a émergé, qui était différent de ce qu'on pouvait demander à ces outils au départ? Par exemple, là, si on demande quel est le dernier mot de la phrase, comme on a fait tout à l'heure, où il suffit de regarder un milliard de bouquins et puis on voit ce qui arrive le plus fréquemment, est-ce que vous avez vécu ce moment où ces outils-là se sont mis à pouvoir répondre à des questions qui n'étaient pas dans les données de départ?
Alors, la question est un peu générale comme ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses impressionnantes. Quand ChatGPT est sorti, c'est pas forcément le cœur du modèle qui a impressionné tout le monde. C'était l'interface de dialogue, la manière dont il pouvait enchaîner les questions et les réponses et garder un dialogue en se souvenant de la phrase d'avant. Ça, c'était, je pense, une avancée majeure. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été impressionnantes. C'est la manière dont ça a changé des choses dans les autres sciences. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de AlphaFold de DeepMind, qui a travaillé sur la structure tridimensionnelle des protéines. Ça, c'était vraiment des choses qu'on ne savait pas faire et qu'on ne pensait pas pouvoir parvenir à faire si vite que ça. Donc ça a vraiment eu des choses importantes. Par contre, si je peux me permettre d'ajouter une chose, il ne faut pas oublier que le réseau de neurones, le modèle, il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il a appris à reconnaître les chats et les chiens, il ne sait toujours pas ce qu'est un chien et il ne sait toujours pas ce qu'est un chat. Il ne sait pas que le chien aboie et que le chat miaule.
Alors comment est-ce qu'on peut lui faire corriger des erreurs dès l'instant où, ne sachant pas ce qu'est un chat, il faut qu'il comprenne ce que le chat fait?
Alors ça, c'est toute la magie qui est bien expliquée. C'est le mystère de la probabilité.
C'est que petit à petit, à force de faire passer les données, de les repasser, de les recorriger, de l'entraîner, au bout d'un moment, il a confiance.
Il apprend la structure, mais effectivement, il faut utiliser ces mots en faisant un petit peu attention à ce qu'on dit, parce que quand on dit il apprend, c'est pas comme nous apprenons, il est capable, ou en fait il donne l'illusion qu'il a appris la structure du texte, de sorte qu'il donne des réponses qui sont cohérentes. Pourquoi c'est le cas? Ça, c'est assez mystérieux, parce que c'est un des aspects mystérieux, parce que ça veut dire qu'il y a une structure dans le langage qui est telle qu'elle peut être découverte par ces réseaux de neurones si on les met à l'échelle, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de puissance de calcul derrière eux, ils sont suffisamment gros. Et pour des vrais, on ne comprend pas vraiment pourquoi.
Je sens que ça fait rire dans le public et que ça inquiète absolument tout le monde, alors que Michel Hazanavicius ne dit rien et se demande ce que cela peut bien signifier. Ça vous inspire quoi, l'idée qu'une boîte comme ça, un petit peu mystérieuse, puissent donner des réponses alors qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent?
Y a un côté magique. Enfin, en perception, on sait bien que ce n'est pas magique. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est l'idée d'une... J'avais entendu, il y a bien longtemps, que le dernier être humain qui réunissait toute la connaissance du monde était au tout début de la Renaissance. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus un être humain qui soit à ce niveau-là. Puis tout d'un coup, il y a une entité qui est à peu près à ce niveau-là, avec une puissance de calcul qui pourrait être quasiment infinie, enfin dans un avenir peut-être pas si lointain. Enfin, en tous les cas, c'est la perception qu'on en a. Il y a quelque chose de quasi divin là-dedans. Il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc, je ne sais pas si c'est réjouissant ou pas de dire qu'on ne comprend pas bien comment...
Eric van den Heijden.
ça pose des questions très, très intéressantes, tout à fait. Je ne pense pas qu'il faut nécessairement le voir. Il y a des aspects qui sont définitivement terrifiants, mais moi, je pense qu'il faut plutôt les voir comme des assistants qui, justement, ont une connaissance assez universelle, parce qu'ils ont vu pratiquement tous les textes qui étaient disponibles, etc., mais qu'on peut les utiliser et les guider pour améliorer notre propre connaissance. Je ne pense pas que ce soit vraiment...
C'est la manière optimiste de voir les choses, et je vous conseille effectivement de le voir comme ça. On peut aussi les utiliser, peut-être... C'est-à-dire, il y a peut-être un des problèmes... Donc, bon, moi, je suis vraiment naïf et je suis dans l'affaire et tout, mais il y a peut-être aussi un problème de qui détient ces outils, dans combien de mains tout ce pouvoir, finalement, est concentré. Et qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil-là ? C'est un outil qui est effectivement qui est faramineux. Je sais pas du tout pour faire l'avocat du diable, l'avocat pas le fruit, donc voilà. Mais c'est pour essayer d'avoir une vision un peu large. C'est-à-dire, comme je disais au début, réellement, je suis totalement fasciné. Et c'est un outil. Moi, j'ai vu arriver là les premières intelligences artificielles génératrices d'images. C'est totalement incroyable, mais dans un deuxième temps ou dans un autre temps ou parallèlement à ça, je crois qu'on peut pas faire l'économie d'une réflexion, morale, éthique et un peu de prospective sur ce que ça veut dire dans l'organisation du travail telle qu'on la connaît.
Isabelle,
je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Par contre, un mot que vous avez employé avant, moi, me fait un peu peur, divin. Le quasi-divin.
Ah non, oui. Mais c'est le quasi qui était important. Oui.
Parce que, justement, c'est un outil phénoménal, c'est un outil qui transforme, il faut y faire attention, il faut voir comment il va s'intégrer dans la société, dans le travail, dans les différentes disciplines. Mais le divin, ça donne un espèce d'idée d'être supérieur, alors qu'en fait, on peut peut-être se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que ça ne nous met pas juste face à la réflexion que les choses qu'on croyait, nous, magiques, la langue, la poésie, etc., se résument en mathématiques ? C'est ça, moi, qui me perturbe. C'est
d'être, tous ceux c'est qui d'être sont, face... Qui n'ont pas voulu suivre les cours de maths à l'école, à vous reconsidérez votre enfance.
Au lieu de monter dans le divin, nous redescendre à des pâquerettes.
Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu tout un truc au début. Tout le monde hurlait. Enfin, moi, dans mes métiers et tout. Et je dois dire que ça me faisait plutôt rire parce que je disais, on a un vrai problème d'ego et d'humilité. C'est-à-dire qu'on voit que des machines font ce que nous pensions être de l'inspiration, du talent, du truc, etc. Donc, sur cette partie-là, je suis tout à fait d'accord. Je parlais plutôt le côté divin dans le sens de la croyance que ça implique. C'est-à-dire que j'ai des enfants et pour eux, ChatGPT dit la vérité, c'est-à-dire parce qu'elle est garante de cette connaissance quasi universelle, ChatGPT dit la vérité. Quand dans le même temps j'entends, je suis pas du tout complotiste ou tout ça, mais c'est des informations que j'entends, je ne sais pas exactement ce qu'elles valent, je la livre quand même, qu'il y a 50 000 narratifs russes qui sont balancés sur le net tous les jours, est-ce qu'il y a moyen de faire bouger cette connaissance ? C'est-à-dire que s'il s'agit de savoir si la nuit tous les chats sont en slip ou gris, ça n'a pas grande importance. Mais s'il s'agit de poser des questions qui concernent la géopolitique ou qui concernent des sujets sur lesquels l'interprétation...
Est-ce que vous voulez dire que les bases de données sur lesquelles sont entraînées potentiellement ces intelligences artificielles pourraient puiser dans ces fausses informations et du coup complètement changer l'histoire qu'on raconte ?
Oui, complètement changer la donne. Est-ce que c'est possible ? Comme vous disiez, il ne sait pas ce que c'est qu'un chat.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, Eric?
Peut-être qu'on peut revenir un petit peu en arrière par rapport à quelque chose que vous avez dit sur cet aspect divin. Et effectivement, il y a énormément de questions très, très importantes à se poser par rapport à l'impact que ça va avoir sur la société. Mais je pense qu'il y a un aspect quand même qui est celui qu'on a vu avec toutes les évolutions scientifiques, c'est qu'effectivement, comme disait Isabelle, ça redescend un petit peu, c'est justement, ça redescend un petit peu notre... piédestal, c'est-à-dire comme toutes les autres découvertes scientifiques, maintenant qui nous ont mis, on n'était pas le centre de l'univers, on fait partie de l'évolution. Ben, l'intelligence est peut-être quelque chose qui finalement n'est pas si exceptionnel que ce qu'on pensait. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose de très dérangeant.
Vous dites ça parce que vous êtes professeur de mathématiques dans une université à New York.
Les mathématiciens sont peut-être les premiers qui vont disparaître avec parce que c'est assez facile de faire des mathématiques avec ce genre d'outils, justement. Mais donc, je pense que cette compréhension-là permet aussi peut-être d'analyser un petit peu mieux, de voir quels sont les impacts que ça pourrait avoir sur la société, et justement de se rendre compte que En fait, c'est des outils dans lesquels on a toujours le contrôle. Les données qui sont dedans, c'est nous qui les mettons, les questions qu'on pose, etc. Donc, il faut précisément peut-être se rendre compte et éduquer les gens que il faut pas justement les prendre nécessairement comme étant la source du gospel, mais qu'il faut être critique. Mais ça, c'est la même chose qu'avec la presse avant. Ça n'a pas énormément changé, finalement.
Il y a quand même un truc qui a changé, qui est... Jusqu'à présent, on était quand même dans l'ère, de la photographie, on va dire. C'est-à-dire que quand on voyait une image photographique ou quand on entendait un son, c'était la preuve tangible que quelque chose avait existé, que quelque chose s'était passé.
Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, car nous allons revenir là-dessus en toute fin d'émission. Je pense que vous allez être assez étonnés par ce que vous allez entendre. Et en attendant, nous allons faire une petite pause musicale avec Zoubizou de Théodora et Jules. Nous sommes toujours en public depuis les rendez-vous de l'histoire à Blois et nous fêtons la science en compagnie du réalisateur Michel Hazanavicius, de la directrice de l'Institut de l'IA Isabelle Riel et du mathématicien Eric van den Heijden.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Comment ça se fait, Eric van den Heijden, qu'il y ait une différence entre ChatGPT 1, 2, 3, 4 ? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est de meilleur en meilleur ? Je dis « il », mais on pourrait dire « elle » ou je ne sais pas quel mot employer.
« Yel ».«
Yel » peut-être, mais ou un autre encore peut-être, pour ne pas tout embrouiller. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une vraie différence ? Est-ce que c'est justement la taille des ordinateurs, enfin des circuits qui sont utilisés ? Est-ce que c'est l'entraînement ?
Alors, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que la taille des réseaux de neurones qui sont utilisés a effectivement grandi. Donc, j'avais parlé de ces poids qu'on met dans les réseaux de neurones. Maintenant, on les compte en milliards, en dizaines ou centaines de milliards ou plus. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de paramètres à ajuster. C'est vraiment des très, très gros objets. Et effectivement, ils ont été entraînés avec de plus en plus de données. Mais la différence principale qui a fait que les modèles sont maintenant plus performants, Et en fait, quand on a dit au début qu'ils étaient appris et qu'ils apprenaient comment faire le next token, le nouveau mot, en fait, il y a un petit peu plus que ça. Il y a aussi une phase de réentraînement après où on les met en présence d'experts qui leur disent cette réponse-là est fausse, cette réponse-là est vraie, etc. Donc en fait, ils apprennent aussi par rapport à l'interaction qu'ils ont avec les gens donc, dans les compagnies, mais aussi avec les gens, par exemple, tous les chats sont en fait réutilisés pour entraîner. Donc la machine apprend sur ce qu'il a été demandé. C'est pour ça qu'on, dans une certaine mesure, on a un contrôle sur ce qu'elle fait. Si on lui pose des questions intelligentes, il va apprendre quelles sont des questions intelligentes. Donc, c'est comme ça que...
Et j'ai entendu certains dire que la différence entre le dernier chat GPT, le 5 et le 4, n'est pas si énorme que ça, qu'on a arrêté d'augmenter exponentiellement les capacités de ces outils. Est-ce que c'est une question technologique ou est-ce que c'est une question de ressources ?
Il y a certainement une question de ressources. Je pense que les compagnies... Alors, on ne sait pas exactement ce que les compagnies font. C'est un petit peu ce qu'on a déjà discuté. Mais effectivement, comme elles veulent démocratiser un petit peu l'utilisation, peut-être qu'ils limitent un petit peu le temps de calcul qui est donné à chacun des utilisateurs. Et ça peut être une des raisons pour laquelle on a l'impression que les performances n'ont pas augmenté énormément. Maintenant, cela étant, on ne sait pas vraiment quelle est la limite que ces machines pourraient avoir. Et il y a deux camps. Il y a certains qui pensent que ça va aller vers l'intelligence générale artificielle et d'autres qui pensent qu'il faut en fait faire quelque chose d'autre, qu'il faut qu'ils aient un modèle du monde, qu'il faut qu'ils aient une interaction avec l'essence, donc la physique du monde pour pouvoir aller au-delà de là où ils sont maintenant.
Comment vous voyez l'avenir, Isabelle Ril, par rapport à ça ?
La plupart des chercheurs qui sont à l'Institut Prairie sont plutôt dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que c'est assez fréquent dans la recherche. Vous avez une découverte qui fait un saut, et donc c'est significativement un meilleur résultat qu'avant. Et puis ensuite, ça continue à croître d'une manière, on va dire, plus lente, et puis ça finit par atteindre un plateau. Et là, il faut qu'il y ait une nouvelle découverte, c'est-à-dire on change de paradigme, on change de modèle, on change vraiment le cœur du système pour faire un nouveau saut. Et il y a quand même beaucoup de chercheurs, en tous les cas, dans cet institut, qui sont plutôt en train de chercher la deuxième catégorie, c'est-à-dire quel va être le prochain grand changement, grand bouleversement, pardon, qui va faire qu'on va changer de paradigme, qu'on va peut-être avoir besoin de moins de données ou de moins d'énergie pour faire des choses plus précises. Et effectivement, une des grandes pistes, c'est d'y intégrer des modèles du monde, des connaissances préalables exactes, c'est-à-dire les lois de la physique, de la biologie, etc.
Parce qu'il serait capable, sinon, de retrouver ces lois tout seul, elles seraient capables de ça, les intelligences artificielles.
Mais c'est un peu comme l'idée qui avait été résumée par, je vais voler l'idée de quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, donc il m'excusera, de dire que ce serait la différence avec le fait, pourquoi il doit régénérer, si vous lui demandez là, tous les chats sont gris, la nuit tous les chats sont gris, ou d'essayer de faire une nouvelle poésie, il va essayer d'inventer quelque chose. Si vous lui demandez de vous citer la 142e page de votre livre préféré, ça n'est pas utile d'utiliser des capacités de prédiction énormes qui vont consommer des tonnes d'énergie, de temps de calcul, alors que vous pouvez ouvrir la bibliothèque et lire la page. Et donc le connecter à la bibliothèque, ça fait gagner du temps et ça fait donner des réponses exactes. C'est la même idée, mais sur des lois plus complexes.
Du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir proche, disons, par rapport à l'impact que pourrait avoir sur nos sociétés l'utilisation généralisée peut-être d'intelligence artificielle de ce type?
Je pense qu'elle l'est déjà. Et il y a un impact très important sur la société, parce que la surface de contact entre chaque individu et l'IA est très importante, dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle aussi, puisqu'on a tous notre petit jouet préféré. Et sur tous les grands sujets de société, aujourd'hui, il y a une question qui interroge l'IA. Si vous prenez le sujet de l'énergie, vous pouvez être du côté des gens qui sont très inquiets de voir augmenter de manière phénoménale la consommation énergétique de tous ces gros systèmes, mais aussi vous dire que grâce à l'IA, si on peut optimiser les chargements, la logistique, le nombre de navires porte-containers, mieux utiliser sur les réseaux les énergies renouvelables qui sont moins facilement stockables, c'est aussi des gains. Si vous prenez le travail, vous pouvez avoir peur du remplacement, de perte d'emploi. Mais vous pouvez aussi vous dire que certaines tâches très rébarbatives vont être évitées aux êtres humains. Il y a encore beaucoup de métiers qui consistent à contrôler les pièces en fin de chaîne d'usine. Il y a des gens qui passent toute leur journée à scruter des pièces métalliques et à essayer de retrouver des défauts. C'est très fatigant comme métier. Si on peut faire ça avec la computer vision, et on peut déjà le faire, et ça évite des tâches rébarbatives. Donc on a toujours un bon côté, un mauvais. On a parlé d'éducation tout à l'heure. Vous pouvez avoir peur de former une prochaine génération de gens extrêmement passifs qui vont manger ce que les IA génératives leur donnent. Ou vous pouvez vous dire que grâce à l'IA, on va peut-être pouvoir apporter un espèce de tutorat personnalisé aux élèves en difficulté dont les parents n'ont pas la capacité de les aider. Donc il y a toujours un poids à mettre sur le bienfait des nouvelles technologies. Et ça s'est toujours produit dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, la vraie différence pour moi ici, qui est fondamentale, c'est la vitesse de transformation. Quand l'électricité est arrivée, le métier des allumeurs de réverbères a disparu. Mais il n'a pas disparu d'un seul coup, parce que l'électricité n'a pas été installée dans toutes les villes en même temps. Là, aujourd'hui, entre le moment où est arrivé ChatGPT et le moment où les traducteurs professionnels ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'un tiers, de la moitié, il y a eu quelques mois. Et donc ça demande des capacités d'adaptation auxquelles on n'est pas forcément, en tant qu'individu, en tant que société, prêt.
La prochaine étape pour vous, Eric van den Heijden, ce serait notamment peut-être une sorte d'interface aussi entre ces où les outils pourraient réagir en temps réel à des changements de circonstances ou.
Il y a bien sûr la connexion avec la robotique qui est très très intéressante, mais effectivement, il y a ce qu'Isabelle expliquait, c'est que une manière d'améliorer ces machines, en fait, c'est de changer la manière dont elles apprennent. Parce que pour l'instant, elles apprennent d'une manière qui, finalement, n'est pas très intelligente, même si le résultat a l'air d'être intelligent. Si vous apprenez à conduire, il n'est pas nécessaire de rentrer 15 fois dans un mur pour se rendre compte que c'est une mauvaise idée. Vous savez qu'il vaudrait mieux ne pas aller. Même chose, il ne faut pas partir sur la falaise, etc. Et la machine, pour l'instant, dans la manière dont elle apprend, c'est elle va faire ça un certain nombre de fois, jusqu'au moment où elle va réaliser que c'est une mauvaise idée, elle va faire une autre mauvaise idée, et éventuellement, elle va arriver à trouver une stratégie, mais c'est vraiment pas la bonne manière d'apprendre.
Donc, comment elle sait que c'est une mauvaise idée ? Parce qu'on lui dit ?
Parce qu'on lui dit, parce qu'il y a un reward, parce qu'il y a, oui, exactement, parce que dans le cas de la voiture, ça serait assez facile. Mais effectivement, il y a... Voilà. Mais pour élaborer peut-être un petit peu sur ce qu'Isabelle a dit, je pense qu'effectivement, ça présente une opportunité énorme. Mais ça vient effectivement, donc l'intelligence artificielle, mais ça vient effectivement avec des défis qui sont aussi énormes par rapport à l'impact que ça a sur la société. Mais je pense que, comme toujours, la bonne manière de le faire, c'est de rester le plus engagé possible avec la technologie, essayer de l'utiliser plutôt que de se faire utiliser par elle ou manger par elle.
Michel Hazanavicius, vous avez essayé de créer en utilisant les derniers outils d'imagerie générative ?
À titre d'essai, oui, bien sûr. Ouais. Et alors... C'est très bluffant, parce que tout d'un coup, là, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une nouvelle actrice complètement générée par intelligence artificielle. Elle a un agent, etc. Bon, bref. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand même un décalage. C'est-à-dire qu'elle décide de trop de choses. Par exemple, moi, je fais mes storyboards, je peux rentrer un dessin. De ce dessin, elle va créer une photo, et de cette photo, elle va l'animer et faire un plan. Mais c'est un plan dont elle va décider de la durée, dont elle va décider. Alors le cadre restera le mien, mais il y a beaucoup d'inconnus. C'est très bluffant, mais il y a quand même un décalage entre ce que vous désirez, le contrôle que vous avez, ce que vous désirez et le résultat. Mais c'est tout à fait utilisable pour plein de choses. Là où effectivement, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire il y a vraiment d'un côté tout ce qui est très bénéfique. C'est-à-dire que moi, très clairement, dans un film, je vais pouvoir avoir accès à des plans que je ne pourrais pas avoir parce qu'ils coûtent trop cher. Mais de la même manière, je sais que c'est quand même... par exemple, un jeune réalisateur aujourd'hui ou une jeune réalisatrice, la publicité fait partie des rares endroits où on peut exercer son métier parce que c'est très cher d'exercer le métier de réalisateur. Il faut une équipe, il faut du matériel, etc. Je pense que dans très peu de temps... Ça deviendra absurde de dépenser 800 000 euros, 1,2 million pour faire une publicité alors qu'on peut l'avoir pour très peu cher parce qu'il n'y a pas un enjeu artistique si grand, etc. Autrement dit, l'argent, le gain, le profit va dicter, va changer une économie, ce qui fait que l'écosystème, là je ne parle que de mon métier, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de métiers évidemment, l'écosystème change. Ça va être de plus en plus compliqué pour des jeunes gens qui veulent faire de la réalisation de trouver des endroits où faire ça. Alors évidemment, il y a forcément des points positifs, mais je crois que la révolution, elle est très très lourde. Et puis, c'est pas comme si au niveau du climat, tout allait bien, et au niveau de les démocraties étaient en pleine bourre. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Ouais, c'est vrai, mais vous pensez pas que...
Eric Van Den Heyden.
Vous pensez pas que ça présente une opportunité, par exemple, dans la cinématographie, dans la réalisation, de faire des choses nouvelles? C'est-à-dire, bon, il y a cette actrice artificielle, il n'y a pas moyen d'utiliser ça pour faire des choses qui n'étaient pas envisageables avant et...
Si, complètement, bien sûr. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est tout noir, mais je dis que le paysage va être bouleversé.
Ça, c'est tout à fait vrai.
Oui, le paysage va être bouleversé, et comme je vous disais au début, la concentration de tout ce pouvoir dans quelques mains, en tous les cas, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui, elle est... C'est-à-dire, vous employez le mot de démocratisation. J'espère que c'est de la démocratisation. J'en suis pas intimement persuadé, mais espérons.
Isabelle Ril, vous pensez que c'est une démocratisation tout de même?
Oui et non. On va faire une réponse de Normand.
Je vois qu'elle prend du mal à l'aise sur ce genre de questions.
Non, c'est une démocratisation des outils de l'accès à la connaissance d'une certaine manière, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, même chez les étudiants, par exemple, ça crée aussi des distensions entre l'étudiant qui a une machine très puissante et dont les parents peuvent payer un abonnement à une IA générative payante, et celui qui va devoir se contenter de la version publique qui est moins chère. Donc déjà, au niveau utilisateur, ça recrée des différences, même si ça en compense d'autres. Et ensuite, démocratisation, si on le prend au sens du mot qui veut dire chacun a accès, peut-être, si on regarde qui est derrière, là, la question peut se poser autrement.
Eh bien, pour rester dans le thème, nous allons écouter Technologic des Daft Punk.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it. Technologic.
Nous sommes au rendez-vous de l'histoire à Blois et nous fêtons la science en public en compagnie du mathématicien Eric Van Den Heyden, du réalisateur Michel Hazanavicius et de la directrice de l'Institut LIA Isabelle Rill.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors nous avons une question de Delphine.
Bonjour. Alors peut-on mesurer le pourcentage d'erreurs des intelligences artificielles ? Qui peut l'entraîner et sait-on la part du pourcentage qui vient des sources ou de son fonctionnement ?
Eric Van Den Heyden.
Alors ça, c'est une question assez compliquée parce que comme j'ai expliqué un petit peu avant, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à l'intelligence artificielle parce qu'elle nous demande de réfléchir sur notre propre intelligence. Et donc, si vous voulez répondre à cette question-là, il faut un petit peu se demander comment est-ce que vous feriez pour faire ça, si c'était un humain qui donnait les réponses. Et donc, c'est clair qu'il faut avoir des données qui soient fiables, mais toutes ces questions deviennent assez compliquées rapidement. Alors, il y a plein de manières techniques de garantir que s'il y a des données, les réponses sont fiables aux données. Mais après, de nouveau, ça pose des questions qui ne sont pas tellement faciles de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça exactement, d'avoir des réponses fiables.
Nous avons une deuxième question de Fatia.
Bonjour. Moi, je voulais savoir s'il y avait des langues, donc des mots, qui étaient plus difficiles à être exploités par l'intelligence artificielle et ChatGPT.
Isabelle Riel.
Alors, il y a des... C'est pas une question de langue au sens où vous pouvez l'entendre, la nature de la langue ou autre. Il y a beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle les langues rares, les langues peu dotées. Parce que vous avez vu que pour entraîner ces modèles, il faut de très très grandes quantités de données, pardon. Et donc il y a des langues qui sont très peu dotées, par exemple des langues qui sont parlées dans des îles du Pacifique ou autres, qui ont quelques centaines de locuteurs dans le monde, et donc il n'y a pas assez de données, voire pas assez de données écrites. Et donc dans ces cas-là, c'est très difficile. Il y a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ce sujet-là et qui essayent de voir comment on peut réutiliser ce qui a été appris sur des grandes quantités de données de langues similaires pour aller vers ces langues plus rares, dont les locuteurs voudraient sûrement aussi avoir accès à la technologie. On parlait tout à l'heure de démocratisation, c'est tout à fait le cas.
Troisième question de Marlène.
Alors, ma question, l'évolution rapide en matière d'intelligence artificielle n'est-elle pas contradictoire avec une société qui se préoccupe de plus en plus d'écologie ?
Qui veut répondre à ça ? Eric ? Van Den Heyden.
Je suppose par rapport au coût énergétique de l'entraînement de ces réseaux de neurones, oui, mais de nouveau, je pense qu'on oublie peut-être un petit peu que l'avancée de cette technologie, c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc je pense qu'à terme, ces calculs vont devenir de plus en plus faciles. Et on a découvert qu'on pouvait faire quelque chose. Maintenant qu'on sait qu'on peut le faire, on peut le faire de manière plus économe. Je pense que ça va se passer assez vite, ça.
Isabelle Riel.
Si je me permets d'ajouter, l'inquiétude de tout le monde, du public, est tout à fait légitime. Par contre, il ne faut pas oublier que chacun de nous participe aussi à cette consommation. Et il faut apprendre à ne pas utiliser ces outils pour jouer ou pour poser des questions qu'on pourrait tout à fait trouver dans le livre qui est posé à côté de nous sur le bureau.
Ça vous fera réfléchir, ça, tous. Hein. Nous avons une quatrième question, justement peut-être pour quelque chose d'utile.
Est-ce que le président de la République peut demander à ChatGPT de l'aider à trouver un Premier ministre ?
Ça, ce serait utile, ça. J'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose par rapport à
oui,
ça, Michel Hazanavicius.
Oui, parce que tout le monde rit, mais je pense que c'est pas du tout drôle. Vous allez tout à fait. Non, mais votre question est tout à fait légitime. Mitterrand consultait une voyante. Je veux dire, c'est pas beaucoup plus rationnel. Moi, j'ai rencontré des gens qui se servent réellement de ChatGPT comme un gestionnaire de situations de conflit relationnels, et ils en sont extrêmement contents. Ils donnent à ChatGPT tout l'ensemble de leurs SMS ou d'échanges de mails, etc. Et ChatGPT décrypte comme ça les forces en puissance, etc. Mais je voudrais pas, parce que j'ai fait un petit retour en arrière sur notre discussion. Je voudrais pas que la question se pose en pour ou contre. Je pense que l'idée du pour ou contre, elle est loin derrière nous. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement ça. Par contre, je pense qu'il faut quand même avoir une vision globale. Et tout à l'heure, quand vous disiez une nouvelle manière de faire du cinéma, certes, mais mon expérience personnelle est que le cinéma est avant tout, pour moi, une aventure humaine de rencontre, de gens qui ne savent pas travailler ou qui font des erreurs, et c'est les erreurs de chacun, les malentendus et justement cette espèce de truc un peu irrationnel qui fait que on se retrouve dans des terres un petit peu inconnues. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis juste que ça participe au plaisir et que quand je vois des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle ou qui travaillent qui passent leur journée sur des ordinateurs avec des casques, je ne retrouve pas tout à fait ce plaisir. Mais c'est, là encore, je ne me pose pas en contre, j'essaie de dire des choses que j'ai vues, voilà.
Eh ben, c'est le moment du petit jeu sonore, figurez-vous. Je vais vous faire jouer, deviner dans le public et vous-même autour de la table. On a enregistré deux extraits sonores de Michel Hazanavicius. L'un d'entre eux est réel, l'autre non. Et il se trouve que c'est le même texte qui est enregistré dans les deux cas. Et on va voir si vous arrivez à reconnaître le vrai du faux. Alors Michel Hazanavicius, vous n'avez pour l'instant pas le droit de parler. Je vous demanderai après si vous vous reconnaissez vous-même. Voici le premier extrait.
À un moment donné, dans la recherche d'un quel film muet, j'avais envie de faire, parce que encore une fois, l'envie était vraiment sur la forme cinéma muet. J'ai un peu bossé sur L'Homme Invisible. J'aimais bien. J'ai trouvé hyper attirant l'idée de faire un héros qu'on ne peut ni voir ni entendre, qui est donc le contraire de l'audiovisuel, quoi. Enfin, en tout cas, qui est doublement problématique.
Je vais parler quelques secondes histoire que vous oubliez ce que vous venez d'entendre. Et maintenant, c'est parti pour le deuxième. C'est le même texte qui est voilà. C'est parti.
À un moment donné, dans la recherche d'un quel film muet j'avais envie de faire, parce que encore une fois, l'envie était vraiment sur la forme cinéma muet. J'ai un peu bossé sur L'Homme Invisible. Et j'aimais bien, je trouvais hyper attirant l'idée de faire un héros qu'on peut ni voir ni entendre, qui est donc le contraire de l'audiovisuel, quoi. Enfin, en tous les cas, qui est doublement problématique.
Alors, qui dans la salle pense que le premier extrait était le vrai ? Alors, on a à peu près un tiers des mains qui se lèvent. Qui pense que le second était le vrai ? Ah, une majorité se dessine. Faut rien dire. Michel Hazanavicius a levé la main sur le deuxième extrait. Et oui, vous avez totalement raison. Le deuxième extrait est le bon. Le premier n'est pas le bon.
Mais vous remarquerez que le premier, il est purement informatif. Et il n'y a aucune nuance de il y a aucune.
Oui, les émotions.
Il n'y a aucune nuance d'appuyer sur un mot, d'hésiter sur un autre, où l'autre est complètement bordélique. Le
peut-être.
Vrai.
Néanmoins, il y a un tiers de la salle qui a cru que c'était le premier, qui était vous.
Mais ça juge peut-être ce tiers de la salle et pas l'intelligence artificielle.
Non, ce qui est assez drôle par rapport à ce genre d'enregistrement. D'ailleurs, ce genre d'enregistrement là qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est une sorte de première. C'est une IA générative française qui l'a fait, et le son a été pris par Nicolas Aubin, qui va nous expliquer ce dont il s'agit. Il est maître de conférence à la Sorbonne Université et chercheur au sein du laboratoire STMS, Sciences et Technologies de la Musique et du Son à l'IRCAM.
Bonjour et merci. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est une voix recréée de manière artificielle par une intelligence artificielle qui a été développée au sein du laboratoire IRCAM. Le modèle qui a été développé à l'IRCAM et qui est illustré aujourd'hui dans les exemples que vous avez écoutés est dans la lignée directe donc de ChatGPT, mais appliqué à la synthèse vocale. Donc, c'est ce qu'on appelle les grands modèles de langage. Et donc, la spécificité pour ce qui est de la synthèse vocale, c'est qu'on n'apprend pas la correspondance entre un texte qui est donné en entrée, une instruction de l'utilisateur textuel et une réponse qui est également dans une modalité textuelle, mais on donne en entrée le texte à synthétiser, mais également un prompt audio qui correspond à un enregistrement de la voix et du style de parole avec lequel on veut faire prononcer ce texte. Et donc, alors notre démarche à l'IRCAM, ou la démarche que l'on a empruntée, c'est finalement d'abord scientifique, c'est-à-dire simuler ou générer des synthèses pour comprendre, et comprendre pour maîtriser. Voilà. Et donc, à l'IRCAM, nous soutenons une démarche éthique de l'usage des intelligences artificielles, et donc très spécifiquement pour des usages de création artistique et pour offrir de nouveaux moyens d'expression aux créateurs sonores et aux artistes.
Et du coup, je précise...
C'est une vraie voix ou
oui, c'est une vraie voix.
C'était pas très clair à son truc.
Je précise tout de même que nous avons demandé à Michel Hazanavicius l'autorisation de copier sa voix avant de vous faire écouter ses extraits, parce que je comprends que ça puisse être un petit peu étonnant d'entendre sa propre voix dit par un... Oui.
Non, je voulais dire, parce que ça rejoint un tout petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que aujourd'hui un enregistrement ou une photo ou même un film maintenant ne soit pas la preuve tangible que quelque chose soit arrivé, me semble être très problématique dans un moment où il y a des circulations de fausses informations de partout, où on est submergé d'informations. Et c'est vrai que la confiance dans la connaissance commune ou dans une vérité commune qui s'érode, ça par contre là je vois, là je crois qu'il y a un problème de démocratie réellement.
Bah oui, non mais vous avez complètement raison. D'ailleurs, là où ça devient vraiment problématique, c'est par exemple lorsqu'on prend une voix et qu'on lui fait dire des choses que cette personne n'a absolument jamais dites. Là ça devient non, vraiment...
J'ai fait un film là-dessus, donc là-dessus je peux rien dire. Ça s'appelle Le Grand Détournement. Donc
va falloir à l'avenir qu'on fasse un petit peu attention.
Pas loin de la fin de l'émission, non? Alors, oui. Est-ce que vous me permettez, cher Christophe, de juste ajouter un petit mot?
Bah oui, bien sûr.
Jamais je n'ai été dans une émission aussi extraordinaire de toute ma vie. Jamais je n'ai rencontré de personnes aussi passionnantes que vous, Isabelle et Eric, et que vous, Christophe. Merci pour tout. Je suis en train de me dire que je vais faire de vous la star de mon prochain film, et j'en suis vraiment très ému.
Bah c'est très gentil. Bah là, justement, c'est un exemple.
Ouais, c'est un exemple de truc un peu foiré. Je ne me suis même pas... Autant la première fois, je m'étais reconnu.
Là, moins.
Là, je me suis moins reconnu. Je me demandais, mais qui est-ce?
Bah vous, peut-être, mais je suis sûr que dans la salle, il y en a plusieurs.
Mais si c'est un appel du pied. Non, mais effectivement. Alors, par contre, vous étiez tous les trois passionnants, ça, c'est vrai.
Et ça, c'est le vrai Michel Hazanavicius qui parle. Mais il y a quelque chose d'épatant à tout ça. Et ce qu'on vient d'entendre, même si c'est pas encore parfait pour les voix, ce qu'il faut se souvenir que ça va devenir de mieux en mieux. Et qu'effectivement, il va falloir faire de plus en plus attention aux voix qu'on entend, aux choses que l'on voit. L'éducation par rapport à ça est primordiale. Et c'est une question extrêmement importante par rapport à la société dans laquelle on arrive et qu'on est en train de créer en ce moment. Voilà, c'était Big Bang qui fêtait la science en public depuis les rendez-vous de l'histoire à Blois. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Nicolas Audin de l'IRCAM. Merci à vous, Michel Hazanavicius. Merci Isabelle Riel. Merci à Eric van den Heijden. Et merci évidemment au public de l'auditorium Samuel Paty de la bibliothèque Abbé Grégoire à Blois. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, et à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Merci beaucoup à la technique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et un invité mystère pour deux émissions à la Maison de la Radio. Nous parlerons gravité et techno-robotique. Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Maison de la Radio et de la musique pour réserver vos places. Et évidemment, comme c'est la fête de la musique, je vous rappelle que Radio France est riche en émissions scientifiques de qualité. Tous les après-midi, il y a la Terre au carré de Mathieu Vidard sur France Inter. Et sur France Culture, il y a par exemple la science CQFD de Natacha Triou, la méthode scientifique d'Étienne Klein et Science Chrono d'Antoine Beauchamp.